Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, nous arrivons à la fin de l'Évangile selon Saint Luc, dans nos commentaires des Pères de l'Église, sur le dernier fichier de cet évangile qui contient les chapitres 21, 22, 23 et 24 de Saint-Luc. Nous en sommes à la page 7, en bas de la page. Nous allons avancer. Nous sommes dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en page 7, en bas de la page. Versets 14 à 18 du chapitre 22 de Saint-Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis désormais, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris le calice, il rendit grâce et dit, prenez et partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit arrivé. Donc nous passons à la page 8, un petit peu les commentaires des Pères de l'Église, j'ai pris les principaux passages. Alors, je vous le dis, je ne mangerai plus, en bas de la haut de la page 8, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que soit qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. C'est-à-dire, je ne célébrerai plus la Pâque mosaïque jusqu'à ce que le mystère dont elle fut la figure soit accompli dans l'Église, car elle est vraiment le royaume de Dieu. Selon cette parole, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je vous rappelle que la Pâque mosaïque rappeler la délivrance d'Égypte lorsque le peuple juif qui était maintenu en esclavage en Égypte par les pharaons qui n'avaient pas connu le patriarche Joseph et avait commencé à persécuter le peuple juif. Donc Moïse est intervenu sous l'ordre de Dieu pour libérer ce peuple qui va quitter la terre d'Égypte, passer la mer Rouge miraculeusement à pied sec et pérégriner dans le désert pendant 40 ans avant d'arriver en terre promise. Je vous rappelle que sur toutes les Hébreux qui ont quitté l'Égypte, seuls deux d'entre eux vont arriver en terre promise, Josué et Caleb. Il y aura bien sûr d'autres personnes qui sont, d'autres enfants qui sont nés pendant la pérégrination, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Pâque dont parle notre Seigneur Jésus-Christ est la figure de cette Pâque ancienne. Donc de même que la traversée de la mer Rouge à pied sec représente le baptême, de la même façon la Pâque juive représente le sacrifice de la messe. Je vous rappelle des choses que j'ai déjà expliquées, donc je vais vite. C'était la coutume pour les Juifs au moment de la fuite d'Égypte de badigeonner le pourtour de leur porte d'entrée avec le sang de l'agneau qui avait été immolé et mangé entre les Juifs et l'ange exterminateur qui allait passer pour tuer le premier-né de tous les Égyptiens, allait éviter évidemment ces familles qui étaient protégées par le sang de l'agneau. Ce sang de l'agneau représente évidemment un nouvel agneau, l'agneau pascal, un nouvel agneau pascal, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Pâque juive est le symbole de la Sainte Messe. Donc c'est encore à cette Pâque ancienne à laquelle le Sauveur voulait mettre fin que se rapportent les paroles qui suivent. Prenant le calice, il rendit grâce et dit, prenez et partagez entre vous. Il rend grâce parce que toutes les cérémonies de l'ancienne loi allaient finir et céder la place à des rites tout nouveaux. Donc c'est la disparition de l'ancienne loi juive pour arriver au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est le testament qui va être scellé par notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le Vendredi Saint. Le rideau du temple va être déchiré en deux pour bien marquer que les cérémonies de l'Ancien Testament sont devenues caduques. Cependant, ces cérémonies ont été conservées dans l'Église juive. Ils vont renouveler justement cette mendication de l'agneau. Cependant, aujourd'hui, ces cérémonies sont mortifères. Sont mortifères parce que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Hélas, le peuple juif, dans son immense majorité, a refusé l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré tous les signes qu'il avait donnés, notamment en ayant rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, par les miracles, etc. Il a prouvé sa divinité. Et seuls les catholiques vont justement accepter ce sacrifice de la Nouvelle Alliance. L'ancienne Pâque va disparaître, elle va être remplacée par la Nouvelle Pâque. Et la Nouvelle Pâque, c'est le sacrifice de la messe, renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Ici, il y a une citation de Saint Bède le Vénérable. Il est plus logique de dire que notre Seigneur déclare qu'il ne boira plus le vin de la Pâque, comme il a déclaré précédemment, comme il a déclaré précédemment qu'il ne mangerait plus l'agneau figuratif jusqu'à ce que la manifestation de la gloire de son royaume fît embrasser la foi chrétienne à tout l'univers, et que le changement spirituel des deux grandes prescriptions de la loi, la nourriture et le breuvage de la Pâque, vous fit comprendre que toutes les observances figuratives de la loi ne seraient plus désormais accomplies que d'une manière spirituelle. Donc la messe va remplacer l'ancien sacrifice. La messe étant le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Donc, le sacrifice de la croix va mettre fin à l'ancienne Pâque des Juifs. Encore une fois, on voit à quel point la religion juive d'aujourd'hui est un retour en arrière en quelque sorte. Donc, il refuse d'arriver de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Sainte Messe, qui est la Nouvelle Pâque, va permettre le salut du genre humain. Le salut du genre humain ne peut pas venir de l'ancienne Pâque. Le salut du genre humain va venir par la Nouvelle Pâque, qui est le sacrifice de la Sainte Messe. Donc, toutes les observances figuratives de la loi ancienne, qui sont conservées dans la religion juive, sont aujourd'hui non seulement caduques, mais elles sont mortifères. Ce serait donc un péché grave pour un catholique de participer à ces cérémonies juives. Parce que justement, les cérémonies juives nient le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est déjà retourné. Les Juifs l'attendent toujours. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est né de notre Sainte Vierge Marie par le mystère de l'incarnation il y a 2000 ans. Passons aux versets 19 et 20 de Saint Luc chapitre 22. Ayant pris du pain, Jésus rendit grâce, le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même le calice après qu'il eut soupé en disant, ce calice est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue pour vous. Alors ici, nous avons cette phrase très importante, « Faites ceci en mémoire de moi ». Toute l'Église catholique dit que cette phrase représente justement l'arrivée du nouveau sacerdoce. Le sacerdoce de l'Ancien Testament est détruit et remplacé par le sacerdoce nouveau. Les prêtres de l'Ancien Testament n'avaient qu'un pouvoir figuratif, ils n'avaient aucun pouvoir littéralement pour le pardon des péchés et sur la transsubstantiation du sacrifice de la messe. Donc, faites ceci en mémoire de moi représente l'ordination sacerdotale. Notre Seigneur Jésus-Christ va ordonner ses apôtres en faire des prêtres du Nouveau Testament, donc avec le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir d'offrir le sacrifice de la messe, le pouvoir de bénir, de sanctifier. Et par ce pouvoir, le culte de l'Ancien Testament devient encore une fois caduque et mortifère. Les Lévites de l'Ancien Testament n'avaient aucun pouvoir pour pardonner les péchés et aucun pouvoir également pour transformer le pain et le vin au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est cette phrase, faites ceci en mémoire de moi, qui représente l'ordination sacerdotale qui va être instituée par notre Seigneur Jésus-Christ ce soir du Jeudi Saint. Donc Jésus-Christ, disent les Pères, a institué ce mystère pour nous faire contracter avec lui une alliance plus étroite. Et nous manifester toute l'étendue de son amour. C'est pour cela que non seulement il se rend visible à ceux qui désirent le voir, mais encore qu'il les laisse le toucher, le manger, l'embrasser et rassasier leurs saints désirs. Nous sortons donc de cette table semblable à des lions qui respirent la flamme et devenus terribles aux démons. Donc le démon sait très bien qu'il a été détruit par le sacrifice de la messe. Il le sait a posteriori. Il n'avait pas compris avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il allait perdre son royaume par l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et sa montée sur la croix. S'il l'avait su, il n'aurait jamais fait crucifier notre Seigneur. Mais le démon, Lucifer, ne savait pas de façon certaine que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Il en avait la suspicion, mais il n'arrivait pas, à cause de son orgueil, il n'arrivait pas à voir, comprendre tous ces signes que donnait notre Seigneur Jésus-Christ. Il est évident que si, encore une fois, que si le démon avait su les conséquences de la passion, les conséquences de la messe, eh bien, il aurait tout fait pour empêcher ce sacrifice rédempteur. Ce sang divin, donc, imprime en nous l'image auguste de notre roi. Il préserve de toute flétrissure la noblesse de notre âme, il pénètre notre cœur de sa divine rosée et lui inspire une force surhumaine. Ce sang met en fuite les démons et fait descendre en nous les anges et le Seigneur des anges. Ce sang répandu sur la terre l'a purifié et lui a ouvert les portes des cieux. Donc, le sacrifice de la messe est d'abord un sacrifice rédempteur, ce qu'on appelle le sacrifice de propitiation. La Sainte Messe est offerte avant toute chose en réparation de nos péchés. Ceci s'oppose évidemment au protestantisme qui prétend que notre Seigneur Jésus-Christ étant mort sur la croix a déjà effacé tous nos péchés et que la messe n'est pas un sacrifice, mais c'est qu'il faut simplement au cours de la messe faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Pour nous catholiques, nous savons que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire parce qu'hélas, nous renouvelons les péchés. Renouvelant les péchés, il nous faut utiliser ce renouvellement, le sacrifice du calvaire, à cause des péchés qui sont constamment commis par chacun d'entre nous aujourd'hui. Ceux qui participent à ce sang divin sont associés aux vertus des cieux, revêtus du manteau royal de Jésus-Christ, ou plutôt revêtus de ce divin roi lui-même. Or, si vous approchez de lui avec un cœur pur, il sera pour vous un principe de grâce et de salut, mais si vous osez vous présenter devant lui avec une conscience coupable, vous commettrez un sacrilège et vous le recevez pour votre condamnation et votre supplice. Rappelez-vous donc ce qu'a dit Saint Paul à ce sujet, à savoir que celui qui mange et boit le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sans distinction boit et mange sa propre résurrection, sa propre condamnation, pardon. C'est Saint Paul aux Corinthiens. Donc, le plus grave de tous les péchés qu'on puisse commettre, c'est de communier sacrilégieusement, c'est-à-dire de communier en état de péché mortel. Ça correspond vraiment à l'abomination de la désolation, c'est-à-dire qu'on fait rentrer dans notre âme, au lieu de faire rentrer notre Seigneur Jésus-Christ, on fait rentrer le démon lui-même. C'est le démon qui vient prendre la place de notre Seigneur Jésus-Christ si j'ai le malheur de commettre une communion sacrilège. Communion sacrilège, c'est communion d'un tas de péchés mortels, en toute connaissance de cause. Voilà ce que dit notre Seigneur. Donc, ce que disent, les pères, que la même communion sera un principe de grâce et de salut si je reçois notre Seigneur en état de grâce, mais si j'ai le malheur de recevoir notre Seigneur dans un cœur corrompu et sali par le péché, cette communion sera pour moi un principe de mort. sera une communion sacrilège. Le même acte peut devenir un moyen de salut et un moyen de destruction. Rappelez-vous la prophétie de Siméon à la 13e Vierge Marie, juste après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la présentation au temple. Cet enfant sera pour la ruine ou la résurrection de beaucoup en Israël. Dire soit j'utilise notre Seigneur Jésus-Christ pour ma sanctification, à ce moment-là, je vais l'utiliser pour la résurrection, la communion représentant cette résurrection, si je suis en état de grâce. Mais si malheureusement je rejette notre Seigneur Jésus-Christ, je vais être obligé de l'utiliser de toute façon, mais cette fois-ci pour ma ruine, c'est-à-dire la destruction. En effet, disent les pères, si ceux qui profanent la pourpre royale sont punis du même châtiment que ceux qui la mettent en pièces, est-il contraire à la raison de dire que ceux qui reçoivent le corps de Jésus-Christ dans une conscience souillée méritent le même supplice que ceux qui l'ont percé de clous? C'est le même Christ qui est là. La messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. C'est ce que disait Saint Curé d'Ars, je connaissais bien cette formule, qui est très belle. Il disait, à chaque fois que je commets une faute grave, je crucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon cœur. D'où l'importance de l'état de grâce. Si j'ai le malheur d'être en état de péché mortel, attention, ne jamais, jamais, au grand jamais, recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'une âme souillée par le péché, parce que là, comme dit Saint Paul, je bois et mange ma propre résurrection. C'est une espèce de suicide spirituel. Il faut bien expliquer ces choses-là aux enfants. Non pas pour qu'ils aient peur de la communion, mais pour qu'ils comprennent que la pire des choses qu'ils puissent faire, c'est recevoir indignement notre Seigneur Jésus-Christ par une communion sacrilège. C'est la même chose pour la confession d'ailleurs. En général, les communions sacrilèges sont des conséquences des confessions sacrilèges. Communion sacrilège, c'est recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que péché mortel. Une confession sacrilège consiste à utiliser le sacrement de pénitence qui est une préparation à la communion, utiliser le sacrement de pénitence en n'ayant pas les dispositions nécessaires pour faire une bonne confession. Je vous rappelle qu'il faut la contrition, l'accusation et la réparation. Et donc, si je n'ai pas une véritable contrition, au moins imparfaite, c'est-à-dire un regret de mes péchés par peur de l'enfer, eh bien, ma contrition est nulle. Alors, il faut cette contrition pour pouvoir recevoir l'absolution. Il ne faut pas simplement la contrition, c'est-à-dire le regret de ses péchés, avec un ferme propos de changer de vie, donc d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Mais il faut en plus de ça l'accusation. Il faut accuser, au minimum, tous les péchés mortels commis depuis la dernière confession, la dernière bonne confession. Et enfin, la réparation. Contrition, accusation, réparation, ce qu'on appelle la matière du sacrement de pénitence. On avance en bas de la page 8, chapitre 22 de Saint-Luc, versets 21, 22 et 23. Cependant, voici que la main de celui qui me trahit est avec moi à cette table. Quant au Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été déterminé, mais malheur à l'homme par qui il sera trahi. Ils commencèrent à se demander mutuellement quel était celui d'entre eux qui ferait cela. Et donc les apôtres vont demander à notre Seigneur, est-ce moi, Seigneur? Notre Seigneur va faire une prophétie, va les avertir qu'un d'entre eux les trahira. On voit très bien là la peur pour chacun des apôtres, qu'il soit cette personne dont parle notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils se posaient la question, quel était celui d'entre eux qui ferait cela? Ils vont dire cette parole admirable, est-ce moi, Seigneur? C'est une parole qu'il faut nous aussi répéter, cette parole, cette phrase de notre Seigneur, l'un de vous me trahira, s'adresse aussi à chacun d'entre nous. C'est pas simplement une phrase pour les apôtres, c'est une phrase aussi pour chacun d'entre nous, parce que quand je commets un péché mortel, eh bien, je crucifie notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, sur l'autel de mon âme, eh bien, je vais trahir notre Seigneur Jésus-Christ comme Judas, quand je commets un tas de péchés mortels, et même tout simplement, lorsque je commets une faute grave, eh bien, je renouvelle le péché de Judas. Judas va finir ses jours le désespoir le plus complet, justement parce qu'il a trahi notre Seigneur Jésus-Christ et n'a pas voulu croire en la toute puissance de la miséricorde du bon Dieu de pardonner même le pire des péchés du moment qu'il y a un véritable regret. Saint Pierre a trahi notre Seigneur Jésus-Christ, mais a regretté son péché. Il a été pardonné. Si Judas avait regretté son péché, s'était précipité aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Pierre l'a fait, eh bien, on aurait un Saint Judas aujourd'hui. Donc, cette phrase, « L'un de vous me trahira, malheur à l'homme par qui il sera trahi. » L'un de vous me trahira, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une phrase qu'il va adresser à chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement une phrase pour les apôtres. Malheureusement, tous les matins, notre Seigneur Jésus-Christ peut nous dire la phrase « L'un de vous risque de me trahir ». Et sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas un seul péché qui est commis le voisin que je ne sois pas capable de commettre. Donc si Judas, qui avait vu tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, qui avait assisté à toutes les prophéties accomplies par notre Seigneur Jésus-Christ, a trahi notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en sera-t-il de nous? Nous sommes certainement plus faibles encore que Judas. Donc Judas a trahi, se retrouve en enfer, il s'est pendu, ne croyant plus à la miséricorde du bon Dieu, il a voulu limiter la toute-puissance de Dieu. Eh bien, si Judas est tombé dans le désespoir, qu'en sera-t-il de moi? Moi aussi, je suis capable de commettre les mêmes péchés que Judas. Vous savez, lorsque je commets une faute grave, eh bien, je renouvelle le péché de Judas. En voyant le commentaire des pères de l'Église en bas de la page 8, « Malheur aussi à l'homme qui s'approche indignement de la table du Seigneur et qui, à l'exemple de Judas, trahit le Fils de l'homme en le livrant non pas aux Juifs, mais à des membres souillés par le péché. » Ici, les pères font allusion à la communion sacrilège. La table du Seigneur, c'est le banquet eucharistique, mais c'est le banc de communion. Donc il faut vraiment demander au bon Dieu cette grâce de ne jamais, jamais, au grand jamais, commettre une faute grave. Et si nous avons le malheur de commettre une faute grave, d'aller nous confesser, jamais, le pire des choses que nous puissions commettre dans notre vie, c'est certainement d'aller communier un tas de péchés mortels. Expliquez bien ça à vous, adultes qui m'écoutez, à vos enfants. Voyez. Et un petit détail, je vous l'ai déjà souvent, j'en ai déjà souvent parlé, mais c'est important que les adultes, les parents fassent attention de ne pas obliger leurs enfants à communier. Sauf les tout petits, dès qu'ils viennent de faire la première communion, si vous savez très bien, les mamans surtout connaissent les péchés des enfants. Savent si l'enfant a commis une faute grave. Bon, en général, à 6-7 ans, il y a peu de fautes graves. C'est assez rare d'avoir des enfants si jeunes capables de commettre un péché mortel. Cependant, tout est possible, et là, surtout dans ce monde d'aujourd'hui. Cependant, avec les adolescents, faut faire beaucoup plus attention. Vous voyez, j'ai vu des catastrophes parfois, des adolescents qui accusaient au confessionnal une faute grave. Et quand je leur disais, mais j'espère qu'avec cette faute sur la conscience, vous n'avez pas communié dimanche dernier. Et on me dit, mais non, monsieur l'abbé, j'ai dû communier parce que ma mère m'a dit, tu vas communier. Et j'ai pas osé lui dire, évidemment, que je n'ai pas à lui dire strictement parlant que j'étais pas en état de grâce. Et donc j'ai communié pour ne pas éveiller la suspicion de ma mère. Et donc là, il faut faire attention, il faut distinguer les enfants qui sont en âge de première communion, qui en général ne commettent pas encore de fautes graves, avec les adolescents qui, eux, hélas, sont capables de commettre des fautes graves. Encore une fois, il faut distinguer les choses, parce que malheureusement, dans les milieux modernes, des enfants de 6-7 ans peuvent déjà avoir totalement perdu leur innocence. Alors, on voit des enfants de 6-7 ans dans le monde moderne qui sont capables de commettre des péchés qui, il y a encore 20 ans, n'étaient commis que par des grands adolescents. Et donc, attention à ça. Donc, lorsque je m'approche indignement de la table du Seigneur, donc je livre notre Seigneur Jésus-Christ à des membres souillés par le péché. Allons à la page 9. Versets 24, 25, 26 et 27 de Saint-Luc au chapitre 22. « Il s'éleva aussi parmi eux une contestation pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et Jésus leur dit, les rois des nations leur commandent en maître, et ceux qui ont autorité sur elles sont appelés leurs bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi de vous, mais que celui qui est le plus grand parmi vous devienne le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alors, n'oublions pas que le prêtre est le serviteur de Dieu. C'est un des très beaux titres que le Moyen-Âge donnait au pape. serviteur des serviteurs de Dieu. Le prêtre, c'est le serviteur des serviteurs des serviteurs de Dieu. Et c'est quelque chose que les modernes ont un mal fou à comprendre. On a beaucoup de mal à expliquer ces choses-là. Ils comprennent pas que le prêtre est un serviteur. Serviteur des âmes auxquelles il est envoyé. Et les modernes ne comprennent absolument plus ces choses-là. Ils ont l'impression que, ils veulent un peu que le prêtre soit une espèce d'employé, littéralement, payé, une espèce de fonctionnaire, payé, distributeur de sacrements, et qu'il doit être à disposition des fidèles qu'à certaines heures fixes. Je compare souvent l'apostolat du prêtre à l'apostolat matériel naturel du médecin. Mais le médecin, il est en charge, si vous voulez, des malades quand il est de garde. Quand il n'est pas de garde, c'est pas lui qui est en charge, strictement parlant. Et le prêtre, c'est complètement différent. Le prêtre est de garde 24 heures sur 24 chaque jour de l'année. Et donc, souvent, les gens ne comprennent pas. Monsieur l'abbé, vous recevez un coup de téléphone à 11 heures du soir pour quelqu'un qui demande à se confesser. Enfin, c'est ridicule de le confesser une heure pareille. Pourquoi vous ne lui dites pas de revenir le lendemain? Bon, je considère que si quelqu'un me téléphone à 11 heures du soir, rassurez-vous, ça n'arrive pas souvent. Si quelqu'un me téléphone à 11 heures du soir pour demander à se confesser, c'est que pour lui, c'est une urgence. Vous voyez? Et je me rappelle quand j'étais en prieuré dans la fraternité Saint-Pierre, je disais toujours à mes fidèles, vous pouvez, en cas d'urgence, demander à vous confesser n'importe quand. Moi, je me couche tard le matin, couche assez tard le soir. Et donc, s'il y a une urgence, les péchés mortels, c'est une urgence. Et surtout si les gens se rendent compte de la gravité de ce qu'ils viennent de faire et qu'ils me téléphonent à 11 heures du soir, eh bien, je vais accepter les confesser à 11 heures du soir. Sauf les jeunes filles et les femmes. Je ne confesserai pas une femme qui demande à se confesser à 11 heures du soir. J'accepterai de la confesser si elle vient avec quelqu'un d'autre. Ça arrivait souvent. Ça pouvait arriver quand j'étais dans mon père à Lille. On avait parfois des fidèles, surtout des jeunes, qui pouvaient téléphoner souvent le samedi soir ou vendredi soir, qui téléphonaient en disant « Monsieur l'abbé, est-ce que je pourrais me confesser ?» C'était parfois tard le soir, 9h, 10h le soir. « Est-ce que je peux venir me confesser ? J'ai besoin de me confesser. » Je disais toujours « Mais oui, bien sûr, venez maintenant. Si c'est vraiment important pour vous, venez maintenant. » Et parfois, il me disait « Monsieur l'abbé, est-ce que je peux venir avec ma petite amie ?» Parce qu'elle aussi a besoin de se confesser. Pas difficile de deviner ce qu'ils avaient fait. Et donc, je confessais les deux à ce moment-là. Mais je n'accepterais pas une confession très tard le soir comme ça d'une jeune fille ou d'une femme qui demanderait à se confesser. Elle doit attendre le lendemain matin pour des raisons évidentes. Donc, voilà ce que disent les pères sur cette partie. Notre Seigneur formule pour tous la même règle qui défend toute recherche de la préséance et ne permet que les saintes luttes de l'humilité. Que celui qui est le plus grand parmi vous devienne le plus petit. Donc notre Seigneur Jésus-Christ exige de la part de ses apôtres qui vont devenir les premiers prêtres et les premiers évêques d'abord qu'ils pratiquent l'humilité. C'est pour cela qu'il va d'abord leur laver les pieds au début de la Passion, au début du Jeudi Saint plus exactement, il va leur laver les pieds pour bien manifester cette notion d'humilité qui est absolument nécessaire pour qu'ils puissent se préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Moralement parlant, apprenons que cette parabole, inaccessible au monde, mais que l'expérience démontre, le chemin de l'exaltation est le mépris de soi-même. Donc le chemin de l'exaltation est le mépris de soi-même, c'est-à-dire plus on veut se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, plus il faut diminuer notre propre gloire personnelle. C'est un peu comme les deux plateaux d'une balance. Plus le plateau de la présence de Dieu va monter dans notre âme, plus le plateau d'humilité doit descendre dans notre même âme. Si vous voulez devenir grand, faites-vous tout petit. Donc, cette loi fut fixée par la loi éternelle du Christ et il en a lui-même donné l'exemple. C'est à nous maintenant de le suivre. N'oublions pas que cette humilité, ici, dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, il le dit expressément, que celui qui gouverne, qui soit d'abord comme celui qui sert, que celui qui est le plus grand parmi vous devienne le plus petit. Donc, l'humilité est vraiment la fondation de toutes les vertus. On dit, les pères disaient que c'était le terreau des vertus. C'est dans ce terreau que la graine va pouvoir germer. Et la première graine qui va germer dans le terreau de l'humilité, c'est la graine de l'obéissance. Pas d'obéissance sans humilité. Donc l'obéissance va entraîner à permettre la croissance de la graine et qui va s'élever, devenir un petit arbre et donner la fleur et le fruit. Et le fruit de cette humilité, donc le fruit de l'obéissance, c'est la vertu de fidélité. Surtout la fidélité qui va être maintenue jusqu'à la mort, à savoir la grâce des grâces. Cette fidélité maintenue jusqu'à la mort, c'est ce qu'on appelle la grâce de la persévérance finale. C'est la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir. En soi, la plus grande des grâces, c'est d'être en état de grâce, en état de charité, le jour de notre mort, pour pouvoir passer en paix devant le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, disent les pères, saint François d'Assise, un grand imitateur et disciple du Christ, s'humilia en souhaitant être considéré comme le plus pauvre et le plus vil des hommes. Donc une fois, un magnifique siège au ciel fut montré à un saint homme, et quand il demanda à qui était-il destiné, il lui fut répondu, c'était le trône d'un des plus grands anges parmi ceux qui sont tombés, mais il est maintenant réservé pour saint François d'Assise. Donc l'humilité va permettre la pratique, surtout des conseils évangéliques. Sans humilité, il n'est pas possible de pratiquer l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Et la clé de ces trois conseils évangéliques, le conseil le plus important des trois conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance, c'est l'obéissance. Sans obéissance, il n'y a pas de pauvreté possible. Ou sans obéissance, il n'y a pas de véritable pauvreté. Il n'est pas possible de pratiquer l'esprit de pauvreté sans l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance qui consiste à voir Dieu dans mon supérieur. C'est pas évident. Souvent, on entend des gens nous dire, mais monsieur l'abbé, l'esprit d'obéissance n'est plus l'obéissance n'est plus possible à être, ne peut plus être pratiqué aujourd'hui à cause du modernisme dans l'église. L'esprit d'obéissance est toujours là. Il faut se maintenir dans l'esprit d'obéissance. Hélas, nous sommes orphelins d'autorité à cause de cela. Dans la pratique, nous n'avons plus de supérieur directement au-dessus de nous, souvent. En tout cas, c'est le cas pour moi, hélas. Mais il faut pratiquer l'esprit d'obéissance. C'est pour ça que j'ai demandé à Monseigneur Williamson, qui est un ami de séminaire, d'être mon évêque de tutelle, pour que, à chaque fois que j'ai une décision très importante à prendre, je lui demande conseil. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Monseigneur Williamson, il n'a pas compris au niveau de la vacance du siège, du Saint-Siège. Cependant, c'est un ami de séminaire et quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et quand j'ai une décision importante à prendre, je lui en parle. Il me donne son conseil, tout ce qu'il peut faire, et je suis son conseil, je m'oblige à suivre son conseil, justement pour ne pas être sans supérieur. Trop dangereux. Autre remarque des pères, ce même saint François, disent-ils, voulait que, ça c'est plus les docteurs du Moyen-Âge qui disaient cela, ce même saint François voulait que ses moines soient appelés frères mineurs, de peur qu'ils ne présument de devenir grand. Donc dans l'ordre de saint François de Paul, les frères étaient appelés les minimes, un peu semblable aux mineurs de saint François d'Assise. Les minimes de saint François de Paul étaient justement appelés de ce nom par humilité. Sainte Madeleine de Pazzi, qui sera nommée bienheureuse par le pape Urbain VIII, reçut l'ordre suivant de Dieu: entrez dans l'ordre des minimes et soyez-en la plus petite pour que vous vous exerciez à devenir la dernière, avec la même énergie qu'utilisent les gens du monde pour devenir le plus grand. Je dis souvent, au final, si vous utilisez le tiers, le dixième de l'énergie qu'utilisent les gens du monde pour se maintenir à flot sur le plan matériel, qu'on utilise le dixième de cette énergie pour se maintenir à flot sur le plan spirituel, vous seriez tous des saints. Et c'est vrai, quand on voit ce que sont capables de faire des gens pour obtenir un gain matériel ou se préserver un revenu correct pour nourrir la famille, s'ils comprenaient que, bien que ce soit une bonne chose de remplir son devoir d'État par rapport à sa famille, pour nourrir la famille, cependant, il ne faut pas oublier que l'âme est plus grande que le corps. Et que le corps est au service de l'âme. Donc, sainte Élisabeth, épouse du landgrave de Hesse, fille du roi de Hongrie, s'occupait des malades et des mendiants malgré les remarques de ses amis. Elle disait qu'il n'y avait pas de position plus humble qu'elle ne voulait remplir pour être plus unie au Christ, qui fut le premier à devenir le plus humble de tous les hommes. C'est dans ces humiliations que consiste la couronne de vertu et de perfection. Donc il n'y a pas de sainteté possible sans humilité. Et l'humilité entraîne directement la vertu d'obéissance. Notre Seigneur Jésus-Christ était obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. D'autres saints suivirent cette même voie. Ici, j'ai trouvé plusieurs exemples. Sainte Edwige, duchesse de Pologne, sa petite fille, Sainte Élisabeth, reine du Portugal, Saint Paulin de Nol, qui se vendit comme esclave à la place du fils d'une veuve afin d'imiter le Christ et devenir le plus humble des hommes. Pierre Thelonarius fit la même chose au témoignage de Saint Jean l'Aumônier. Il faut demander cette grâce de la vertu d'humilité. Et cette grâce de la vertu d'humilité, elle s'obtient aussi en acceptant les humiliations. Ne pas chercher systématiquement à défendre sa position. Parfois, ça commence par une simple mortification de la langue. Dans un groupe, apprenez pas à parler le premier. À vous taire, laissez parler les autres. Et après, donnez votre point de vue si c'est nécessaire, uniquement une fois que tout le monde a parlé. Nous avançons, versets 28, 29 et 30 du chapitre 22 de Saint Luc. « Vous, vous êtes demeurés avec moi dans mes tentations, dit notre Seigneur, et moi, je vous prépare le royaume comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. » Notre Seigneur avertit qu'à la fin des temps, il reviendrait sur les nuées du ciel, avec le signe de son sacrifice, le signe de la croix, avec les 12 apôtres pour juger les vivants et les morts. Saint Ambroise nous fait remarquer que le royaume des dieux n'est pas de ce monde. Remarquons ici que l'homme ne doit pas ambitionner la parfaite égalité avec Dieu, mais seulement la ressemblance avec lui. Rappelez-vous que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Image, parce qu'il a une âme, ressemblance, parce qu'il garde la charité. Jésus-Christ seul est la parfaite image de Dieu, parce qu'il reproduit en lui l'unité de la gloire du Père. Donc l'homme juste porte en lui l'image de Dieu, lorsque la connaissance de Dieu le porte à mépriser le monde pour reproduire en lui la ressemblance de la loi divine. Donc un homme qui vit en état de grâce reproduit en lui, dans son âme, l'image de Dieu. Il est comme un petit miroir qui va refléter la beauté divine. Au contraire, si je commets un péché mortel, je vais refléter l'image du démon. Et donc, soit je suis notre Seigneur Jésus-Christ avec la loi des conseils évangéliques, la loi divine des 10 commandements à la loi des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, soit je reflète le démon, ses pompes et ses œuvres, et au lieu de prêcher la loi de Dieu, je vais prêcher la loi des droits de l'homme. Je vais prêcher la loi des droits de l'homme, et ce sera la destruction complète de la vie spirituelle, non seulement en moi, mais dans tout ce que je vais toucher. C'est comme une chenille, si vous voulez, qui va laisser sa baffe partout, dit Saint Curé d'Ars. Passons à la page 10, en haut. C'est par catacrèse, c'est-à-dire étendre la signification d'un mot au-delà de son sens propre, que les plaisirs et les honneurs du royaume du ciel sont comparés dans la Sainte Écriture à un banquet, aux plats et aux boissons délicieux aux premières places à la table des rois. C'est pour cela que les pères parlaient du banquet eucharistique. J'en parle, je n'utilise pas souvent ce terme parce que dans le monde moderne, banquet fait trop penser justement au repas de la nouvelle église. Pour l'église moderne, leur messe n'est plus qu'un simple repas. Or, la messe est un sacrifice. Donc, je n'utilise pas beaucoup ce mot qui est un peu dangereux dans le langage commun d'aujourd'hui. Cependant, les pères parlaient du banquet eucharistique. Les hommes charnels comprennent mieux ces choses, mais sont souvent incapables d'estimer les choses spirituelles. Donc, ils comprennent très bien les choses matérielles, ils sont très doués pour s'occuper des choses matérielles, et très paresseux pour s'occuper des choses spirituelles. De même que la nourriture et la boisson nous sont incorporées et deviennent nôtres, ainsi au paradis, par la vision magnifique et les autres dons glorieux, Dieu nous sera incorporé et deviendra nôtre. Les pères de l'Église font remarquer qu'à chaque fois que je communie un tas de grâces, notre Seigneur Jésus-Christ va s'incorporer, s'unir, si vous voulez, à mon âme. De la même façon, si vous voulez, que deux chandelles qui brûlent ensemble ont fini par former qu'une seule flamme. De la même façon, quand je communie en état de péché, en état de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'est donné la Sainte Communion avec son corps, son sang, sa divinité, va prendre totalement possession de moi. je vais devenir littéralement un petit miroir qui va refléter notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle tristesse aujourd'hui de voir justement la désinvolture avec laquelle les prêtres modernes célèbrent ce qu'ils appellent la messe, qui n'est plus une messe. Et je pense que cette désinvolture vient du fait qu'ils n'y croient plus du tout. Ils n'ont plus du tout réalisé et compris que la Sainte Messe est renouvellement dans son grand sacrifice de calvaire, offert pas simplement en propitiation, en réparation de nos péchés, mais aussi en adoration, pour rendre grâce et pour demander les grâces dont nous avons besoin. Versets 31-34 du chapitre 22, page 10. Le Seigneur dit encore, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour que vous criblez comme le froment. Mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Et vous, lorsque vous serez convertis, affermissez vos frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec vous et en prison et à la mort. Mais Jésus dit, Pierre, je vous le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que vous me niez trois fois que vous me connaissez. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ donne une leçon terrible à Saint-Pierre. Saint-Pierre est, qui a un effet d'amour trop humain, prétend qu'il est prêt d'aller à la mort. En prison et à la mort, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, va se faire remettre en place par notre Seigneur Jésus-Christ avant que le coq n'ait chanté « Vous m'aurez renié trois fois ». Et Saint-Pierre ne va pas comprendre cette phrase avant de se retrouver avec Saint-Jean dans le prétoire du palais de Ponce-Pilate et quand il va renier trois fois notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint-Pierre va pleurer toute sa vie son péché. Alors qu'il va être pardonné presque tout de suite par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile nous dit que lorsque notre Seigneur a quitté, lié, mené par les soldats, la maison d'Anna, l'ancien grand prêtre, pour aller à la maison de Caïphe, il va voir Saint-Pierre qui vient le trahir. Il regarda Saint-Pierre, dit l'Évangile. Et évidemment, Pierre a été bouleversé par ce regard, Saint-Pierre a été bouleversé par ce regard de notre Seigneur Jésus-Christ, et va sortir et pleurer avec profusion. Et vous pouvez être sûr que notre Seigneur Jésus-Christ déjà faisait le signe de croix et donnait l'absolution à Saint-Pierre. Saint-Pierre a été pardonné tout de suite, mais il a appris l'humilité. Il a appris l'humilité par la force des choses, hein, à la dure comme on dit. Judas n'a pas voulu s'humilier et il va mourir comme un damné. Donc voilà les commentaires des pères, page 10. La tentation est comparée avec raison au criblage du froment. C'est verset 31. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Car de même que par le tamis, les grains de blé sont séparés de la paille et restent sur le tamis alors que la paille est dispersée par le vent dans l'air, ainsi les fidèles et les saints demeurent constants pendant la tentation, la clé faible s'envole au loin. Donc, les faibles sont à la paille, ce que les fidèles sont au grain, grain de blé. Les grains de blé sont plus lourds que la paille, et donc vont rester dans le tamis, et vont pouvoir être emmagasinés dans les greniers. Alors qu'au contraire, la paille est envolée, s'envole par le vent. Donc, ça représente justement la paille représente la faiblesse des gens qui n'ont pas qui ont fondé leur maison, si vous voulez, sur le sable au lieu de la fonder sur la pierre. Et donc le vent va se précipiter, l'eau va se précipiter contre la maison va s'écrouler parce que les bâtis sont fondation. Au contraire, les fidèles qui sont fortement unis à notre Seigneur Jésus-Christ représentent ceux qui vont justement fonder leur maison sur le roc. Donc les fidèles et les saints demeurent constants pendant la tentation alors que les faibles s'envolent au loin. Donc il faut vraiment prier avec humilité, il faut méditer cette trahison de Saint-Pierre. Si Saint-Pierre a trahi alors qu'encore une fois il avait vu lui aussi tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, si Saint-Pierre a trahi, qu'en sera-t-il de moi? J'avoue, quand je pense à ça, ça me laisse un peu rêveur parce que je me dis, humainement parlant, je suis bien pire et spirituellement parlant, je suis bien pire que Saint-Pierre. Donc si Saint-Pierre est tombé, moi je vais tomber à tous les coups. Et c'est là où il faut se rappeler la phrase de Saint-Paul Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il vous donnera les moyens de surmonter la tentation. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ a permis la chute de Saint-Pierre. Et non seulement il a permis la chute de Saint-Pierre, mais il a voulu que cette chute soit écrite en toutes lettres dans l'Évangile. Saint-Pierre aurait pu dire aux évangélistes, « Bon, ben, écoutez, gardez un peu de discrétion, s'il vous plaît, sur ma chute. » Non, il a voulu, il a exigé que cette triple trahison soit mentionnée dans l'Évangile. Comme le Christ destine Saint-Pierre à devenir la tête et le chef de l'Église, sa foi dans le Christ sauveur du monde doit être affermie. Donc le Christ, par sa prière, demande et obtient pour Saint-Pierre deux privilèges spéciaux. Voilà ce que disent les pères. Le premier est un privilège personnel, simplement pour Saint-Pierre. Le deuxième privilège est commun à Saint-Pierre et à tous ses successeurs. Premier privilège, disent les pères, il est personnel par lequel Saint-Pierre ne perdra jamais la foi dans le Christ comme le firent les apôtres au soir du jeudi saint. Alors ça, c'est discuté entre les pères. Certains pères pensent que Saint-Pierre perdit, au moment de sa trahison, quand il a trahi trois fois notre Seigneur, qu'il perdit son amour pour lui, le régnant avec ses lèvres, mais qu'il conserva la foi. Mais d'autres pères pensent que Saint-Pierre perdit à la fois son amour et sa foi, la vertu théologale de foi, à cause du stress et de la crainte. Mais pour une durée de temps courte et peu de temps après, vit sa foi restaurée avec une nouvelle vitalité. Et que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va pardonner Saint-Pierre, Saint-Pierre a été profondément humilié par sa chute, il va devenir plus fort. Et il va attendre, il va refuser de prêcher publiquement, par exemple, avant d'avoir reçu les lumières du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et à ce moment-là, il va ouvrir tous les volets de la chambre haute à Jérusalem pour pouvoir prêcher. Mais toute sa vie, Saint-Pierre va se rappeler sa trahison. Jusqu'à sa mort, quand il a été crucifié en 67, il a exigé d'être crucifié la tête en bas. Et je ne suis pas digne d'être crucifié comme notre Seigneur Jésus-Christ, mon maître, parce que je l'ai trahi. Et donc jusqu'au dernier moment sur la terre, il s'est rappelé cette trahison. C'est un peu le drame chez nous, c'est qu'on trahit notre Seigneur Jésus-Christ par le péché mortel, mais on va se confesser, et puis on considère que la confession est faite, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ exige de nous, justement, une conversion beaucoup plus importante. Et après le péché, notre Seigneur Jésus-Christ nous pardonne, mais il faut rattraper le péché, il faut réparer le péché. La petite pénitence donnée par le prêtre à la confession, qu'on appelle la réparation sacramentelle, ne suffit pas. Il faut rajouter à ce que la réparation extra-sacramentelle, qui est en général manifestée par la pénitence et la prière. Il faut prier et faire pénitence. Il faut pratiquer ces trois choses, la prière, le jeûne, et l'aumône, le jeûne contre les péchés d'impureté, pour attraper les péchés d'impureté, la prière pour attraper les péchés d'orgueil, et l'aumône pour attraper les péchés provoqués par la concupiscence des yeux. Il faut rattraper les trois concupiscences, la chair, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, l'orgueil. Donc il faut pratiquer ces trois actes très importants, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône. Donc, il y a une dispute entre les... Enfin, une dispute. Les pères ne sont pas d'accord entre eux pour savoir si Saint-Pierre avait vraiment perdu complètement la foi ou non. Deuxième privilège donné par notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Pierre. Attention, à cette époque de la Passion, Saint-Pierre n'est pas encore pape. Il va devenir pape après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de la pêche miraculeuse après la résurrection, ce qui va prendre à part Saint-Pierre et trois fois lui faire une profession de foi. Trois fois de suite, notre Seigneur Jésus-Christ va demander à Saint-Pierre, « Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Et trois fois, Saint-Pierre va répéter, « Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime. » Il ne dit pas « Je vous aime plus que les autres », il a pris l'humilité, il dit « Je vous aime. » Et pourquoi cette triple profession de foi de Saint-Pierre? Pour rattraper la triple trahison de Saint-Pierre. Donc le deuxième privilège, que notre Seigneur Jésus-Christ va donner au pape, est commun à Saint-Pierre, mais aussi à tous ses successeurs qui sont évêques de Rome. C'est que le pape, c'est celui qui est évêque de Rome. Car Pierre, selon la volonté du Christ, fonda et confirma l'église pontificale à Rome. Ils ne perdront jamais la foi en enseignant une hérésie ou une erreur contraire à la foi catholique. Il n'est pas possible qu'un pape puisse enseigner l'hérésie. C'est pas possible. Donc, malheureusement, on est bien obligé de constater aujourd'hui que ceux qui, depuis 1958, à mort du pape Pie XII, à Rome, se prétendent pape, enseignent à longueur de journée l'hérésie, c'est à longueur de journée surtout avec Bergoglio aujourd'hui, et donc il n'est pas possible pour un pape d'enseigner l'hérésie. Donc, ces personnes qui se prétendent pape depuis la mort du pape Pie XII en 1958, en fait, ne sont pas pape. Il faut insister là-dessus, vous savez que c'est une des erreurs de la fraternité Saint-Pie XII de prétendre qu'un pape peut errer dans la foi. Et les papes ont erré dans la foi. Si le pape Pie IX, en 1870, au Concile Vatican Ier, a pu instaurer le dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est précisément parce qu'il n'y a jamais eu un seul cas de pape ayant erré en matière de foi. S'il y avait eu un seul pape errant en matière de foi, enseignant une hérésie dans l'histoire de l'Église avant le pape Pie IX, Pie IX n'aurait pas pu définir l'infaillibilité pontificale. Je vous ai déjà expliqué que le pape Pie IX avait pris conseil auprès des cardinaux, les cardinaux sont les conseillers du pape, pris conseil auprès des cardinaux, même des évêques, pour préparer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Il s'est opposé à toute l'équipe libérale autour de l'évêque d'Orléans, Mgr Dupont-Loup, qui ne voulait pas entendre parler de cette infaillibilité pontificale. Et le pape avait exigé qu'un grand historien, le père Constant, fasse une étude totale, complète, des cas où on accusait un pape d'avoir erré dans la foi. Le pape Honorius, par exemple, le pape Liber, etc. Et le père Constant a fait cette étude en deux gros volumes sur l'infaillibilité pontificale. Il a conclu que toutes ces accusations étaient fausses et que jamais un pape n'avait erré dans la foi en enseignant une hérésie. Et que toutes ces accusations étaient provoquées par les ennemis de la foi, soit les protestants, soit les ariens au début de l'histoire de l'Église, soit les protestants, soit les modernistes de l'époque. Donc il n'est pas possible pour un pape d'enseigner l'hérésie, d'enseigner l'erreur. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Le bon Dieu protège le pape. Il le dit bien, je suis avec vous juste tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas avec le pape simplement lorsque le pape enseigne de façon extraordinaire quelque chose dans son magistère pontifical, dans son magistère universel. N'oublions pas que c'est l'enseignement du pape Pie IX que le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire. Et ça c'est très important parce que c'est nié par la fraternité Saint-Pie X qui nie complètement que le pape puisse être infaillible dans son magistère ordinaire universel. Or c'est en toutes lettres dans les textes de Vatican I. Autre texte ici de Théophylacte, un autre père de l'Église. Vous serez, il est vrai, ébranlé pour un moment, mais vous conserverez la semence de la foi que j'ai déposée dans votre âme. Il parle de Saint-Pierre. Le vent des tentations fera tomber les feuilles, mais la racine demeurera faible, ferme. Bon. Bien sûr qu'il y a eu des papes dans l'histoire de l'Église qui n'ont pas toujours agi comme pape dans leur vie privée. Je donne par exemple souvent l'exemple de, je crois que c'était Jean XII, au Xe siècle, siècle de fer, qui était davantage un homme de guerre en train de chevaucher pour protéger les états pontificaux qu'un homme d'Église. Cependant, en matière de foi, jamais ce pape a erré dans la foi. On dit aussi beaucoup de choses, raconte beaucoup de choses contre les papes Borgia en prétendant qu'ils ont donné beaucoup de scandales par leur vie privée, ce qui est d'ailleurs à vérifier. Quand on vérifie, on se rend compte que c'est vraisemblablement faux. N'oublions pas que les grands historiens comme Darras ou Rohrbacher le nient. Et on voit très bien que si un pape a pu errer en matière privée, il n'a jamais erré en tant que pape sur la foi et les mœurs. Un pape peut commettre un péché. N'oublions pas qu'à Rome, il y a un rôle important, un poste important, qui est le confesseur du pape. Le pape a besoin de se confesser comme tout le monde. Le pape, donc, en matière privée, peut pécher de façon privée sur toutes les vertus possibles et imaginables. Et il peut, même, on peut dire, de façon privée, pécher même sur la foi. Même contre la foi, l'espérance ou la charité, mais pas en tant que pape. en tant que pape, il ne peut pas enseigner publiquement dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire l'erreur ou l'hérésie. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister parce que, hélas, ça cause des erreurs de la fraternité sur le sujet. Beaucoup de nos fidèles sont très troublés. Ils ne se rendent pas compte que si l'infaillibilité pontificale ne peut s'exercer que dans certains cas très particuliers, c'est-à-dire quand le pape parle comme docteur, comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église, l'infaillibilité pontificale peut être exercée par le pape soit dans son magistère personnel, en tant que pape qui parle seul, à savoir dans son magistère qu'on appelle le magistère pontifical, soit de façon ordinaire, soit de façon extraordinaire, mais il peut aussi exercer son autorité infaillible dans son magistère qu'on appelle le magistère universel, avec tous les évêques unis à lui. Mais c'est le pape qui donne cette infaillibilité, ce n'est pas les évêques. Le pape n'a pas besoin de l'acceptation des évêques pour pouvoir enseigner infailliblement. Ça, j'ai eu une grosse discussion la semaine dernière avec une personne de ma famille qui prétendait que le pape ne peut exercer son autorité infaillible que avec tous les évêques. Il faut que tous les évêques soient d'accord avec lui. C'est totalement faux. Le pape est infaillible dans son magistère personnel également. Il faut bien comprendre, il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur de la fraternité symboliste qui consiste à dire que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Pour eux, infaillible et extraordinaire sont deux synonymes. C'est faux. Le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire universel, sans toute lettre l'enseignement du Concile Vatican I du pape Pie IX. Alors, voyons ces textes. Donc le vent des tentations fera tomber les feuilles, mais la racine demeurera ferme. Satan, dit Théophylacte, laissera, jaloux de l'amour que je vous porte, demande et cherche à vous nuire, et bien que j'ai prié pour vous, vous ne laisserez pas de succomber à ses attaques. Et quand vous serez convertis, confirmez vos frères. C'est-à-dire, après que vous aurez expié dans les larmes et dans la pénitence le crime de m'avoir renié, confirmez vos frères, vous que j'ai établi le prince des apôtres. Notre Seigneur va vraiment pardonner à Saint-Pierre. Non seulement va lui pardonner, mais il avait déjà décidé qu'il serait le chef du collège apostolique. Mais malgré sa prévarication, sa triple trahison, notre Seigneur va confirmer Saint-Pierre dans son rôle de chef de l'Église. Mais ça se fera, encore une fois, à la fin de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, juste avant la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, le jour de l'Ascension. Après que vous aurez donc expié dans les larmes et dans la pénitence le crime de m'avoir renié, confirmez vos frères, vous que j'établis le prince des apôtres. C'est là votre devoir, comme étant avec moi la force et la pierre fondamentale de l'Église. Ça, c'est des choses qui doivent être très claires. Heureusement qu'on a cette promesse de l'Église que le pape ne peut errer en matière de foi. Évidemment, on a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Évidemment, quand les gens entendent les inepties de Bergoglio, ils disent « mais c'est faux ». Mais Bergoglio, justement parce qu'il enseigne ses hérésies en matière de foi à longueur de journée, c'est une preuve supplémentaire que Bergoglio ne peut pas être pape. Et ça n'a pas commencé avec Bergoglio, ça a commencé avec Jean XXIII. Qui des deux était pire, Jean XXIII ou Bergoglio? Moi, je pense quand même que c'était Jean XXIII, parce que c'est Jean XXIII qui a ouvert les portes de l'Église à toutes les hérésies possibles et imaginables. Vous voyez? Donc, ce ne sont point seulement... Attendez, où j'en suis là? Ce ne sont pas... point seulement les apôtres qui existaient alors que Pierre devait fortifier, mais tous les fidèles qui se succéderont jusqu'à la fin du monde. Que personne donc parmi les chrétiens ne perde confiance en voyant cet apôtre renier son divin maître et recouvrir ensuite par la pénitence la sublime prérogative qui fait de lui le souverain pontife du monde entier. Ça, c'est très important à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas enlevé sa confiance à Saint-Pierre. Et c'est la même chose pour nous. Si Saint-Pierre a trahi notre Seigneur Jésus-Christ trois fois, combien de fois je l'ai trahi? Combien de fois j'ai trahi notre Seigneur Jésus-Christ? À chaque fois que je commets une faute grave, je trahis notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire pour autant que notre Seigneur Jésus-Christ va perdre complètement confiance en moi? Non. À partir du moment où je regrette. Il a perdu complètement confiance en Judas parce que Judas n'a pas voulu s'humilier et demander pardon. Saint-Pierre s'est humilié, a demandé pardon et va être pardonné par son divin maître. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Nous allons terminer par une prière. Oh, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.